mercredi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Eh oui, Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat, aujourd'hui qui prépare les plats. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. Manu, vous avez sorti la grillade là aujourd'hui.
Ah, c'est pas moi, c'est notre ami Karim, des jumeaux, qui est venu avec sa plancha.
Bonjour tout le monde.
Et son éleveur de limousine.
Bonjour.
Il s'appelle Aurélien.
Aurélien Legendre.
Voilà, ouais.
Voilà, et limousine, une race sympa. Présentez-nous un peu votre éleveur et fournisseur.
Alors Aurélien, c'est un éleveur qui est certifié bio. Il est dans le 44. On travaille avec lui depuis 6 ans. D'accord. Au début, quand on a commencé, quand on a voulu travailler en direct avec les éleveurs, souvent ça se passait très mal parce que ils respectaient pas ce qu'on leur demandait. On faisait des réunions pour leur dire voilà, nous on veut une viande qui soit un peu persillée, qui soit comme ça. Ils faisaient tout l'inverse. Et Aurélien, ça a été notre premier éleveur qui a compris en fait ce qu'on voulait. Et du coup,
c'est-à-dire qu'il s'est mis à parler le jumeau.
C'est ça.
Ouais. C'est compliqué comme langue, hein. Parce qu'il y a la stéréo quand ils sont jumeaux en plus.
Oui.
Et il y a tic et tac, hein, Philippe, ouais. Hein, comme on le sait.
Et du coup, bah, ça se passe très très bien. On va le voir à peu près tous les 4-5 mois. On va le voir au minimum 3 fois par an. Et du coup, ça se passe très bien. Quand il monte sur Paris, il vient nous voir. Et puis c'est comme de la famille maintenant, quoi. Voilà, on se dit tous, s'il y a une bête qui est bien, il essaye de faire la même chose. S'il y a un truc qui
va pas
mal. Vous
êtes invité pour les naissances, pour les baptêmes.
Ouais, il y en a plein. Et dès qu'il y a une bête qui va pas, c'est très rare, mais dès qu'il y a une bête qui va pas, il dit, ah, on aimerait bien l'avoir un peu plus grasse et quelque chose comme ça. Du coup, il travaille que pour nous, quoi, en fait. Voilà.
Quand on a commencé nos séries d'émissions, Karim, on a commencé avec Robert. Je sais pas si vous vous souvenez. Le premier qui a été mangé, c'était Robert. Aujourd'hui, c'est devenu suspect de manger de la viande. Les gens sont de plus en plus inquiets, mais c'est vrai qu'on les inquiète de plus en plus. Paradoxalement, vous, dès le départ, c'était dans votre ADN de faire attention à ce que les vaches mangeaient, par exemple.
Bah, le bien-être animal, c'est quelque chose d'important pour nous. Et nous, quand on a commencé il y a 10 ans, on était une boucherie, on va dire, traditionnelle. On achetait des viandes AVS, etc. Il n'y avait rien d'exceptionnel, en fait. Hein. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose de haut de gamme? Du coup, en fait, on a commencé à faire des viandes bio. On était la première boucherie en France à faire de la viande bio et halal. Du coup, ben, c'était une première pour la communauté musulmane. Pour nous aussi, on connaissait pas. Et avec le temps, on s'est rendu compte que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. On s'est rendu compte que le bio standard qu'on nous vend dans les coopératives, bah, c'est moyen.
Et oui, le bio avec de la vache de réforme, ça restera toujours de la vache de réforme.
Ça restera de la vache de réforme. Et du coup, on s'est fait connaître avec nos viandes bio. La qualité, elle était, par rapport à une qualité standard, pourquoi pas. Mais par rapport à du haut de gamme, c'était pas extra, quoi. Alors, on s'est dit, voilà, on va partir voir les éleveurs, on va faire des recherches, et si on trouve des éleveurs bons qui peuvent faire des viandes bio, mais haut de gamme, pourquoi pas? Parce que le problème des élevages bio, c'est que vous faites du bon travail ou du mauvais travail, vous êtes payé pareil. D'accord? Du coup, pourquoi, moi, autant qu'éleveur bio, pourquoi je vais me casser la tête à faire beaucoup plus d'heures, à donner plus de céréales pour avoir une bête qui va au final me coûter au même prix? Parce que c'est les abattoirs qui fixent le prix de la viande en bio. Il y a, donc, elle peut monter, elle peut descendre. Alors qu'avec Aurélien, pas du tout. En fait, on s'est mis d'accord pour un prix. Du coup, on n'est pas dépendant d'un abattoir. On fixe nous-mêmes nos prix, en fait. On est en direct. Donc nous ça va nous coûter un peu plus cher que d'acheter dans un abattoir, mais pour Aurélien c'est mieux parce qu'il a une plus grosse liberté, pour lui c'est plus intéressant.
Alors Karim, vous parlez de céréales, d'ailleurs Aurélien nous a amené un petit peu de l'alimentation de ces bêtes limousines, hein. Je le montre à l'image puisqu'on est filmé aujourd'hui, agriculture bio. Alors c'est le label AB d'ailleurs, c'est pas le label Ecocert. Parce que comme je l'ai dit souvent, c'est pas la même chose.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez dans la main, Manu, parce que ce serait peut-être plus simple.
C'est ce que mangent les limousines d'Aurélien Legendre.
Mais quoi alors?
Donc là, il y a des céréales. Alors, a priori, il y a du blé dedans, je vois, plus ou moins. C'est ça? Du blé, du pois. Il y a du pois aussi, oui.
Des mélanges de céréales et de protéines.
Si je mets mes lunettes, dites-nous ce qu'il y a dedans.
Donc voilà, c'est le mélange céréalier qu'on implante dans nos champs. Et donc, on a un mélange qui est déjà complet. On pourrait comparer ça à un muesli comme on prend en petit-déj. Donc nous, nos vaches consomment ça, mélangé avec l'enrubanage là que vous avez là, ouais. Qui a une bonne odeur. Justement.
Donc voilà un fourrage qui sent très très bon.
Ça sent les tables. Hein.
Moi je me vois bien cuisiner avec, par exemple.
Hein. Oui, ça pourrait.
Une volaille sur un lit de. On fait ça avec du foin, mais avec un truc comme ça,
avec
on pourrait
foin,
aussi.
Ouais. D'ailleurs, de toute manière, que consomme la vache, on va le ressentir dans le goût de la viande aussi. Quoi. C'est ce qu'on peut retrouver dans la viande là, qu'on va déguster tout à l'heure.
Tenez Philippe, je vous fais sentir donc, si
nous,
vous voulez.
Donc ça voilà, notre mélange céréalier, c'est un mélange de pois, de févrole et de blé. Voilà.
D'accord.
Qui est,
Oui, j'avais vu le pois et le blé, d'accord. Donc voilà,
c'est faut savoir qu'en général, les viandes classiques, hein, pas certifiées, pas en haut de gamme, c'est souvent fini avec du maïs. Et du soja en fait, mais en
ouais, ça c'est pour le énorme. C'est pour le persillé, c'est pour le gras, mais ça, surtout ça fait plus de gras que de persillé en fait.
Ouais, c'est ça. En fait, ça développe le gras intramusculaire, le gras de couverture en fait. Il y a le gras intramusculaire qui est dans la viande, qui nous intéresse. Nous, on est des fanatiques de ce gras-là parce que
c'est ce qu'on fait beaucoup pour la vache de réforme avant de l'envoyer à l'abattoir. On la gave de soja, en fait, de maïs.
Elle grossit énormément.
Pour la faire grossir.
Elle grossit énormément et du coup, c'est pour ça que vous, des fois, vous allez chez le boucher, vous achetez de la viande et puis la viande elle réduit de moitié en fait. Pourquoi? Parce que les vaches elles engrossissent trop vite et dû au soja et au maïs et souvent il y a des OGM dedans, c'est pas bon pour la santé.
À quoi ça sert par exemple sur une vache les OGM?
Aujourd'hui les OGM, ouais. Les OGM servent à rien. Les OGM c'est juste la façon de produire l'alimentation des bovins et donc aujourd'hui pourquoi on dit qu'une vache a consommé des OGM, c'est parce qu'elle va consommer de l'aliment qui vient d'Amérique du Sud, bien souvent.
Voilà. Mm-hmm. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, par exemple, pour les gens qui ont des élevages laitiers, par exemple, et qui vendent leur vache en réforme, une fois qu'elles sont trop vieilles, qu'elles ne peuvent plus allaiter, on leur donne parfois des aliments OGM parce que ce sont des aliments qui sont prévus pour être assimilés plus vite par l'organisme de la vache et de manière à ce qu'elle grossisse plus vite. Parce qu'une vache de réforme, une vache laitière, une fois qu'elle fait plus de lait, c'est un coût, c'est un coût logistique, c'est un coût technique, hein, je veux dire. Hein, elle vous occupe une chambre d'hôtel, mais elle paye plus de loyer. Donc cette vache, il faut pouvoir l'envoyer le plus vite possible à l'abattoir. Alors en général, c'est minimum 3 mois pour l'engraisser, ça peut aller jusqu'à 6. Si vous lui donnez des aliments OGM, en 3 mois, elle va grossir beaucoup. Mais comme le dit Karim, quand vous allez la cuire après, dans votre poêle, il va rester la moitié. Quoi.
Voilà. Parce qu'il faut savoir que tout se vend au kilo. C'est-à-dire que l'éleveur, quand il ramène sa bête à l'abattoir, il va recevoir son chèque par rapport au kilo. Tout va se vendre au kilo.
C'est-à-dire au poids total de la bête. C'est ça?
Voilà, au poids total de la bête. Donc si
voilà, vous achetez toute la bête.
C'est ça. D'accord. Donc moi je suis un éleveur. Je vais leur donner beaucoup de maïs, du soja, des choses comme ça, des produits pour les faire grossir plus vite. Moi c'est plus rentable pour moi, je vends au kilo. En fait, c'est comme si
donc plus elle est grosse, plus je gagne de l'argent.
Plus elle est grosse, plus je gagne de l'argent.
Bah, je vais vous donner un exemple, par exemple sur la limousine, hein, on va prendre la vache de boucherie. Allez, la vache de boucherie, le poids de carcasse, le poids vif, c'est 600 kilos. Le poids de carcasse, c'est-à-dire ce qui est livré au boucher, ce qui est commercialisable, c'est 350 kilos. C'est pratiquement la moitié. Donc c'est vrai que effectivement, l'éleveur, plus la bête est lourde, plus il gagne d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en reste pratiquement que la moitié, quoi. Donc si effectivement il y a plus de poids utile, c'est-à-dire du bon poids avec du muscle, c'est-à-dire de la viande, évidemment c'est avantageux et pour le boucher, pour le
ça s'appelle le rendement.
Le consommateur, voilà, c'est une question.
C'est le rendement. Ouais. C'est le rendement. Je sais que chaque race de bête, avec une bonne finition, elle a un pourcentage de rendement. Honnêtement, moi et mon frère, on s'en fout un peu de ça en fait. Avant, c'est vraiment quand vous êtes dans le cercle de la boucherie, on va vous parler que du rendement. Ah oui, il faut qu'il y ait 65-70% de rendement. C'est là où tu vas gagner de l'argent.
En fait, voilà, économiquement, c'est ça.
C'est devenu traditionnel en fait. C'est devenu une maladie. C'est devenu une maladie que nous, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le goût en fait. Avant tout, la qualité de viande et surtout le goût.
Aurélien.
Oui.
Non, parce que il faut vous imposer, hein, parce que sinon.
Oui, si vous laissez faire par Karim.
Pas par Karim.
Vous parlerez pas.
Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que quand on a commencé la série d'émissions, avec vous les jumeaux, la prise de conscience de la santé du label bio, elle n'était pas aussi forte qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a presque l'impression que ça devient la norme, la santé.
Bah, de plus en plus. Après, le problème du bio, c'est qu'il y a. Je pense que le bio d'ici 10 ou 15 ans il va se terminer et on créera un nouveau label parce que en fait il commence à faire n'importe quoi sur le label bio. Du coup on sait pas si c'est bon ou pas parce qu'en fait c'est bio mais c'est élevé de manière industrielle. Du coup aujourd'hui le bio
il va y avoir deux bio effectivement, il va y avoir deux bio, un bio du terroir avec des bonnes pratiques respectueuses de l'environnement et tout un savoir-faire derrière. Et un bio conventionnel, en fait. Aujourd'hui, on appelle la viande conventionnelle, mais demain, de toute manière, par la force des choses, l'agriculture va, même par, économiquement, va être obligée de revoir, remettre en question toute l'utilisation des produits chimiques. Donc, naturellement, l'agriculture va devenir plus ou moins bio. Mais après, voilà, il y aura un bio, on peut appeler ça un bio à deux vitesses.
Bah, la conscience en France, elle y est. C'est plutôt Bruxelles qui freine un peu pour des raisons économiques.
Et de lobby, etc.
Bien sûr. Ouais.
Mais voilà, aujourd'hui, on a un bio qui est de qualité. Mais c'est vrai que de plus en plus d'exploitations font le choix de passer en bio aussi pour des raisons économiques, parce qu'ils voient que voilà, la tendance est là. Et après, c'est vrai que certains éleveurs sont pas forcément convaincus par la vraie pratique bio.
C'est ça. Oui, et puis c'est vu par les éleveurs comme plus de travail pour moins de revenus parfois, ce qui est un peu idiot, parce que c'est pas vraiment le cas. Puis il y a des aides européennes toujours pour le moment.
Elles sont justement en train de diminuer là vraiment.
Oui, c'est un peu le problème. Voilà, mais pourquoi c'est parce qu'en fait les aides européennes elles existent toujours, mais elles ne sont plus allouées aux éleveurs français, puisque les éleveurs français en Europe sont quand même à la pointe du bio. Elles sont données à des éleveurs polonais ou bulgares ou autres qui eux sont à la ramasse, comme on dit, hein, en termes de bio. Et c'est un peu le problème aussi, ce que je dis souvent, du label bio éco-cert, c'est-à-dire européen, puisqu'il certifie bio des viandes venues de pays, des viandes ou même des légumes, des fruits, etc., venues de pays où le cahier des charges bio n'est pas aussi contraignant qu'en France. Donc quand on achète c'est ce que j'ai montré vos céréales et votre fourrage tout à l'heure, hein, il y a le logo bio AB, qui est le logo agriculture biologique, qui est le logo franco-français, qui lui est un label contraignant, sérieux, avec des contrôles. Si on achète de la viande dite bio, mais qui vient d'un autre pays ou qui est siglé EcoCert, c'est-à-dire le logo avec les petites étoiles en rond, un peu comme sur le drapeau européen, là, on n'est pas sûr du cahier des charges. Si c'est de la polonaise,
c'est pas tout à fait le même. Non, c'est sûr.
C'est pas du tout le même. Et le problème, c'est que le label bio, ça va être uniformisé, mais ça va être uniformisé au moins 10 ans. C'est-à-dire qu'on va plus aligner la France sur le bio européen, sur le bio polonais, par exemple, parce qu'on considère que la Pologne a trop de retard en termes de bio et que donc ils n'arriveront jamais aux standards français et que donc on préfère baisser les standards français pour le label bio EcoCert. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que le bio va baisser de qualité. Donc c'est vrai que bientôt peut-être que la référence en France au niveau du bio, ce sera peut-être un label Déméter comme il y a sur l'agriculture et plus un label bio, parce que le label bio européen ne vaudra plus grand-chose.
Bon, il y aura label bio, et après, je pense que ce sera dans le mode de consommation, ce sera de réduire les intermédiaires et consommer le plus directement possible. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les jumeaux, parce que voilà, moi je vends directement aux jumeaux, les jumeaux savent et peuvent communiquer sur l'origine de leurs produits, et moi c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire cet après-midi, je serai présent à la boucherie, et voilà, donc le circuit court, l'échange il est là, et le consommateur sait exactement comment est fait le produit et d'où il vient, quoi.
Bien, restez avec nous. On parle de viande aujourd'hui, parce que oui, il faut manger de la viande, même si vous entendez de plus en plus de gens
mais
qui
de la bonne viande.
Ne font pas le faire. Ouais, de la bonne viande, il faut en manger, en tout cas. C'est Dessus de Table jusqu'à 13h.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
On parle de viande aujourd'hui, Manu.
Absolument, et plus principalement de la limousine, hein, qui est une race de viande très ancienne. Hein. Je crois que c'est... D'ailleurs, si vous regardez sur les peintures rupestres des grottes de Lascaux, c'est l'ancêtre de la limousine, hein, qui est dessiné dedans.
D'accord, je savais pas.
Ouais, non, c'est une...
C'est Europe, une... je crois, c'est ça.
Oui, enfin bon, il y a des bovins, hein, qui sont dessinés sur les grottes de Lascaux.
C'est le roc, c'est ça.
Et l'ancêtre de la limousine vient de là.
Ouais. Alors, nos invités sont Karim de la boucherie Les Jumeaux, qui est venu avec Aurélien, qui est éleveur quelque part entre la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine.
C'est ça.
Salut tout le monde. On parlait des grottes de Lascaux, mais Karim, j'ai entendu dire que vous étiez en train de reconstituer une race qui vient de cette époque-là.
C'est le premier bovin qu'on a retrouvé. En fait, c'est les. Vous savez, dans les grottes, ils dessinaient des des bovins, et ben on a retrouvé la
à côté
la
de Manu, on a retrouvé quoi?
Vous avez retrouvé la notice dans un coin de la grotte, c'est ça?
Et du coup, on a trouvé j'ai découvert un éleveur sur internet qui vend ça. Et du coup, j'ai commandé une vache qui arrivera d'ici 2-3 semaines à peu près. Donc pas mal. Je pense qu'elle sera un peu dure. Je sais pas.
Une vache poilue.
Je sais pas comment elle sera.
Elle est comment?
Je sais pas. Non, mais en plus elle a des cornes énormes.
Ah, c'est un urus quoi. C'est, ouais. C'est les vieux.
L'ancêtre
du bœuf.
C'est pas mal. Il a l'avant, il est assez robuste. Et l'arrière est un petit peu petit, mais
ah, ça s'appelle un bison, ça.
Non, ouais, comme le non, c'est, et on va faire ça vraiment pour le fun, pour faire découvrir aux gens. C'est bien, quoi. C'est un petit plus. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on va vendre toute l'année, mais je pense qu'on va faire une promotion dessus.
Ah, c'est une bête robuste, quoi.
Ouais, on va voir.
La limousine, à la base, elle était pas élevée pour la viande, mais elle était élevée comme bête de trait, en fait, au tout début, la limousine. Au 15e,
c'est, ouais, je crois, ouais. C'est une race rustique. Ouais.
C'est une race rustique et c'est pour ça qu'elle s'adapte bien dans toutes les régions, parce qu'elle résiste au froid, au chaud, au sol rocailleux. C'est une bonne bête, la limousine.
Il y a,
hein,
des limousines, on, ouais, trouve des limousines en Sibérie aussi.
Oui.
Les gros élevages limousins en Sibérie. Ouais.
Oui, d'ailleurs, c'est une race, comme elle se marie très bien. Comment dire, pour les croisements, c'est une race qui marche très bien. Donc là, il y a beaucoup de races dans le monde qui sont issues de races limousines, parce qu'on s'en sert beaucoup pour la reproduction dans le cadre de croisements.
Oui, en effet, c'est une race aussi des qualités au niveau maternel, donc très bonne productrice de lait.
Oui, et la limousine s'occupe très bien de ses veaux. Hein.
Très maternelle.
Il y a ce qui mange beaucoup, enfin ce qui tète beaucoup. C'est une bonne maman, la limousine.
Et la mise basse passe assez facilement. Il y a très peu de
pertes.
Il n'y a pas de péridurale. Bon, après, les veaux passent très facilement. Donc c'est, voilà, c'est une race qui est facile à élever aussi.
Est-ce que vous, par exemple, Aurélien, alors vous donnez à manger de l'alimentation bio à vos bêtes, est-ce que vous les soignez à l'homéopathie?
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai toute une gamme de produits maintenant qui est disponible, assez facile d'accès. Et d'ailleurs, récemment, j'ai fait une formation sur le kéfir.
C'est quoi la graine, là?
C'est la graine de kéfir, oui. Et donc, on peut le produire nous-mêmes à la ferme. On met la graine à fermenter avec du lait. Et donc, on produit notre kéfir. Et donc, le kéfir a la capacité d'implanter les bonnes bactéries. Donc on donne ça aux veaux, nous, le petit veau, dès la naissance.
Comme aux humains, hein. D'ailleurs, il y a une grande mode du kéfir. Hein.
Oui. La feuille est antiseptique, par exemple. Hein. La feuille de kéfir, qu'on appelle la feuille de citron lime aussi, c'est kéfir ou kafir, ou kombava, c'est une feuille qui est utilisée en Asie pour ses propriétés antiseptiques.
C'est ça, et donc on implante les bonnes bactéries avant la première tétée, bien important. Et donc après, il n'y a aucun problème, tout se passe. Donc même on parle d'homéopathie, mais en principe, si le kéfir est donné comme il faut dès le départ, il n'y a plus aucun problème.
C'est donné au veau avant le colostrum, voilà. On lui donne
de naissance, quoi. L'estomac, l'ensemencement des bonnes bactéries est fait dans l'estomac avant l'arrivée du premier lait. Et après.
Les probiotiques des animaux, alors.
Exactement.
Ouais, ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça change beaucoup. On parle beaucoup de bêtes aujourd'hui qui sont gavées d'antibiotiques.
Ben oui, c'est sûr. Bon, ben après, voilà, nous, on n'en entend même pas parler, quoi, parce que bon, on est dans un système très extensif en plus. Donc les vaches, elles ont de l'espace, elles sont au pâturage, elles mangent que des bons produits, elles sont bien traitées, ça c'est logique. Donc voilà, l'antibiotique, nous, on n'en parle pas chez nous, en tout cas.
Vous n'en avez jamais parlé ou vous vous êtes mis à la mode? Ou ça a toujours été votre principe, finalement, de fonctionnement?
Ça fait partie du vocabulaire quand même. Même nous, en tant qu'humains, moi, quand je suis malade vraiment et que j'ai une grosse infection, on n'y coupe pas. Il faut prendre des antibiotiques. Mais dans des élevages comme les nôtres, quand les choses sont bien faites, on n'en a pas besoin.
Alors un élevage comme le vôtre, c'est combien de bêtes? Combien de têtes?
Eh bien, nous, on a 140 mères, donc 140 veaux par an. Et avec l'élevage des génisses, etc., on tourne autour de 400 têtes présentes. Donc, on a 250 hectares de prairies.
Ah oui, ça fait, elles ont de la place.
Elles ont de la place.
Pour paître en toute liberté.
C'est ça.
Oui, Philippe.
Non, je vous regarde. Oui, je regarde.
Moi, j'ai juste quelque chose à dire. Nous, ça fait 6 ans qu'on a fait la rencontre d'Aurélien. J'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire parce que il n'est pas devenu éleveur comme ça. Il a fait des études, il a beaucoup voyagé et j'aimerais bien que tu racontes un peu ton histoire parce que c'est vraiment, vraiment intéressant.
Oui, bon, bah, oui, moi, bon, l'agriculture, je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, de père en fils, depuis.
Enfant de la balle.
Depuis 4 générations, c'est ça. Après, oui, j'ai fait des études agricoles. Et suite à cela, j'ai voulu voyager et donc la vache m'a permis de voyager énormément. Donc j'ai pu voir les différentes façons d'élever aux quatre coins du monde. Je suis allé en Russie, en Sibérie justement, dans des élevages limousins. Je suis allé aussi en Nouvelle-Zélande, Australie, voir d'autres modes de production beaucoup plus extensifs.
Ouais, elle s'adapte très bien à tous les climats. Hein,
les grands espaces, voilà. Et voilà quoi. Donc j'ai aussi une expérience en Suisse. Donc là j'ai vu aussi la
vache Milka.
La vache Milka, la vache qui entretient les montagnes aussi. Un point important. Et donc ça m'a fait prendre conscience aussi que l'élevage de bovins était important pour la planète et l'environnement, parce que l'élevage bovin permet d'entretenir les surfaces en prairie, et on sait que ces prairies sont de réels pièges à carbone et participent à préserver l'environnement, quoi.
Et de tous ces voyages, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez fait une méthode?
J'ai fait une méthode. J'ai pas élaboré de méthode officielle.
Qui sont ceux qui vous ont le plus inspiré aujourd'hui, entre les Australiens, la Nouvelle-Zélande, les Russes, les Suisses?
Non, on va dire que j'ai un mélange de tout, quoi. J'ai pris un petit peu de tout, et puis moi je me suis adapté aussi au milieu dans lequel je suis. Donc moi je suis en Bretagne, voilà, on est sur des plus petites surfaces par rapport à ce que j'ai pu voir. Et derrière, je me suis aussi adapté un peu au marché. Donc j'ai rencontré des jumeaux qui ont une demande, et donc j'étais justement dans le cœur de la demande, et donc maintenant je suis perdure là-dessus, quoi.
Ce qu'il faut savoir, c'est que je le disais tout à l'heure, la race limousine, elle a failli disparaître autour des années 60, parce qu'en fait non seulement c'est vrai que la race était moins, il y avait moins d'éleveurs de limousine, mais en plus comme la limousine, c'est ce qu'on appelle une blonde, hein, comme la blonde de Galice, etc. Quand il y a eu la création de la race de blonde d'Aquitaine, on a voulu regrouper et que donc la limousine est une blonde, on a voulu regrouper la blonde de limousine, la blonde des Pyrénées, la blonde de Garonne, on a voulu toutes les regrouper sous le nom de blonde d'Aquitaine. En fait, toutes ces blondes sont devenues des blondes d'Aquitaine, sauf la limousine, parce que les éleveurs limousins s'étaient battus vraiment pour garder leur spécificité. Donc c'est une race qui revient de loin quand même.
Alors Manu, je vous rassure, si vous entendez la sirène des pompiers, c'est pas grave, c'est Karim qui a commencé à démarrer à faire cuire de la blonde. Peut-être qu'on va même ouvrir la fenêtre à un moment donné.
Oui.
Alors, la cuisson de la viande, on en parle tout le temps. Tout le monde a son idée là-dessus. Karim, vous, qu'est-ce que vous préconisez?
Une cuisson saignante. Toujours saignante.
Ouais, ça, dans la communauté, c'est compliqué. Hein.
Ouais, c'est compliqué, ouais. Mais ça change, franchement, ça change. Hein. De toute façon, j'ai beaucoup de, en fait, mes clients, vu qu'on fait des émissions de radio, on touche un peu à tout, on va dire. J'ai des clients, surtout quand ils nous écoutent à la radio, ils sortent pas sans des conseils de cuisson. Donc on leur donne des conseils de cuisson, surtout sur le couscous, sur la façon de cuire, etc. En fait, on les éduque à avoir une meilleure cuisson. Et le fait de faire ça, eh ben, ça change toute la donne, parce que une cuisson bien faite, c'est bonne, quoi. Sinon, ça sert à rien de venir chez moi pour manger trop cuit. Elle aura aucun goût. Et on a certains types de viande qu'on vend. Si on le fait trop cuit, elle devient trop dure.
On a vu la tête de Kim qui était là tout à l'heure.
Il s'est régalé, Kim. Oh là là.
Il s'est régalé, mais il a eu du mal à saignant, par exemple. Ça, là, il a fallu batailler un petit peu.
Et bah, Kim, je lui ai pas dit, mais je lui ai mis du saignant. Je lui ai coupé des petits morceaux. Je l'ai un peu arnaqué, en fait. Et en fait, il a mangé saignant. Il a rien dit. Il était très content.
Alors saignant, voilà, c'est pas du sang, hein, par contre. D'ailleurs, il faut parce que les gens pensent que c'est du sang.
Il y a pas de sang. Il y a pas de sang dans la vache, tout ça. Quand on sacrifie l'animal.
C'est pas du sang, c'est du jus. Hein. C'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est avec doux, des oligo-éléments, du goût et du goût surtout.
Alors, est-ce que quelqu'un a la gentillesse d'ouvrir la fenêtre? Je dis ça parce que c'est juste pour les pompiers que je dis ça. Hein. Sinon, moi, ça me dérange pas.
Oui, c'est pour pas que les détecteurs de fumée s'emballent.
Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la loi des détecteurs de fumée, ils vont venir. Est-ce qu'Aurélien, vous travaillez vraiment différemment que le faisaient votre père et votre grand-père, ou au final pas du tout?
Non, justement, on n'a pas changé énormément de choses. Bon, la dimension a un petit peu évolué parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut un peu plus d'animaux pour vivre. On a d'autres besoins que nos parents, mais nous, on peut dire qu'on a toujours été en bio chez nous. Mon grand-père faisait de la luzerne, ce que je vous ai amené, le fourrage que consomment mes vaches.
J'aimerais que les gens sentent tous hein, ça, parce que c'est vraiment...
Aujourd'hui, on
c'est
fait
puissant.
Ça passe pas à la radio, Philippe.
Alors là, l'odeur de la luzerne, elle passe à la radio, je peux
c'est
vous
vrai,
dire.
Oui, c'est vrai qu'elle
sent... À côté, le maquis, c'est calme. Hein.
Elle sent très bon, mais vous avez vu ce côté très chlorophyllé, quoi. Ça, ce sont des choses qu'on ressent dans le goût de la viande, après, Philippe.
C'est ça, exactement, ouais. Et nous, voilà, on apporte beaucoup d'importance à justement la grosse part de luzerne et d'herbe dans la ration des vaches.
Mais alors, vous leur donnez du jus de pomme aussi. Expliquez-nous ça.
Eh bien,
c'est la Bretagne, dont on est surplus de cidre et du jus de pomme, il est de nos vaches.
Là, on vient de mettre en place, oui, voilà, un petit essai et bon, de toute façon, je suis convaincu, ça va marcher. Je mélange justement le jus de pomme au fourrage. Et donc, en plus, c'est très appétant. Donc, les vaches, elles se jettent dessus.
Ah, elles mangent bien.
Bah oui, elles mangent bien.
Elles mangent des pommes, les vaches, d'ailleurs. Hein.
Elles mangent des pommes, elles mangent des pommes.
Ah, les vaches adorent le sucre, hein, Philippe.
Ouais, c'est ça. Et donc, de la même façon que ce qu'on dit tout de suite, on va retrouver le goût du jus de pomme, on le retrouvera dans la viande, il n'y a aucun problème.
C'est-à-dire qu'on a le goût de ce qu'elles mangent dans la viande. Par exemple, oui. Qu'est-ce qui est très important et qu'on ressent vraiment dans la viande ? La luzerne, par exemple, c'est que...
La luzerne, c'est garanti, on le ressent. Après, pour l'expliquer à la radio, voilà, il faut le goûter, quoi.
Karim, qui a l'habitude, qu'est-ce qui domine dans le goût de la limousine, par exemple, d'Aurélien?
Quels sont les arômes qu'on va... Je vais être cash, hein. La limousine, si elle n'est pas maturée, elle sera un petit peu fade. D'accord, elle sera un petit peu fade. Après,
alors maturée, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la maturation, c'est-à-dire combien de temps?
Alors en fait, la carcasse, il faut qu'elle reste 3 semaines dans les frigos, dans la chambre froide, avant de la manger. Pourquoi? En fait, le goût se développe avec le temps. Du coup, en manger une limousine trop fraîche, bah elle aura moins de goût. Après, nous on travaille avec Aurélien, c'est un éleveur bio un peu particulier. Ça veut dire que c'est pas tous les éleveurs bio qui font ça. J'en ai vu des éleveurs bio, je peux vous dire que c'est le meilleur éleveur bio que j'ai vu en France. Il n'y a pas photo.
Mais pourquoi?
Parce que les bêtes qu'on fait sont mieux traitées. En fait, la nourriture va être meilleure qu'un autre élevage. Et surtout que on a fait un reportage sur Canal+, avec Aurélien. Donc si vous voulez, vous pouvez checker sur internet, vous pouvez voir les vidéos. C'est qu'Aurélien, il a une ferme qui est magnifique, qui est toute neuve en fait. Du coup, tous les locaux sont beaux. Il a des matériels qui sont très performants.
On a de l'espace pour les animaux.
Il y a de l'espace. Il y a en tout, on a 250 mètres carrés.
C'est important parce que quand il y a de l'espace,
le bien-être animal,
les bêtes marchent plus et elles développent du muscle. Voilà. Donc ça, c'est
le bien-être animal est primordial pour la qualité de la viande. On sait bien qu'un animal stressé, la viande est dure. Hein, ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
Géographiquement, il est bien situé. Il est bien. Il y a une petite rivière qui passe. C'est franchement, c'est bien.
Vous avez été embauché par le comité régional du tourisme, ouais. Karim.
Là où vous m'étonnez, Karim, c'est que vous arrivez à cuire de la viande et à faire de la radio en même temps.
Il va nous faire la météo et le point autoroutier dans 2 secondes.
Non, après la pub, tiens. Ouais. On va continuer à cuire. On parle de viande jusqu'à 13h sur le RFM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, on parle de viande aujourd'hui jusqu'à 13h. C'est très compliqué de faire de la radio en même temps qu'on est en train de déguster, puisque...
Et puis là, on est passé à la viande fumée, Philippe, en plus. Hein,
ah bon, ça y est. Ouais. Karim, qu'est-ce qui...
Là, dans l'assiette, là, ça tourne, il y a de la viande
Karim
fumée.
Karim Desjumeaux est là, il est venu avec son éleveur qui s'appelle Aurélien Legendre. On a changé de quoi là, Karim?
Alors en fait, là, j'ai pris une viande de chez Aurélien en maturation.
Quel morceau?
C'est le faux filet. J'ai pris un morceau du faux filet qui était maturé. En fait, il avait 50 jours de maturation et je l'ai fumé en fait. Je l'ai fumé dans un four spécial et du coup, j'ai cette option de pouvoir fumer tout ce que je veux. D'ailleurs, je fais du bacon aussi.
Et vous maturez d'abord et vous fumez après.
On mature d'abord un petit peu. Donc là, elle avait
un petit peu cette semaine, ça commence à être pas mal.
Ouais, ça va. Après, nous, je sais qu'il y a d'autres viandes qu'on mature 90 jours, 60 jours, ça dépend. Mais une bonne maturation, 50, 60 jours, ça suffit largement. Après, c'est du cinéma. Et du coup là j'ai fait fumer ma viande et là on est en train de la goûter. Elle a reposé toute la nuit dans mon frigo là de maturation, donc ça a fumé les autres bêtes que j'ai en maturation. On a une trentaine de côtes qui maturent tout le temps, toute l'année. Du coup voilà, c'est sympa. Et là je crois que la viande est cuite là. Faut pas qu'elle soit trop cuite, sinon ça va pas être apprécié.
Oui, comme on dit souvent aux auditeurs, la viande ne se mange pas carbonisée, évidemment.
Hop. Alors, quel intérêt ça apporte de fumer la viande, par exemple, Manu, au niveau du goût ?
Alors, déjà, le fumage, ça apporte deux choses. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le fumage, on le faisait pour la conservation. On n'avait pas de frigo, donc on fumait les viandes, ça permettait de les conserver plus longtemps. Et puis, on s'est aperçu que ça développait des propriétés gustatives, mais aussi des propriétés au niveau de la tendreté de la viande. C'est vrai que si une viande est correctement fumée, ça permet effectivement de gagner en tendreté sur alors pas sur tous les morceaux. Hein. Il y a des morceaux si vous les fumez, ça devient un peu de la carne.
Ouais.
Mais sur les morceaux.
Pourquoi ça modifie la structure de la viande, le fait de la fumer
Oui, les fibres. Ça resserre les fibres un peu.
Oui, ça resserre les fibres.
D'accord.
Ouais. Après, c'est le goût en fait. Hein. C'est vrai qu'avant, on fumait la viande pour la conservation. On la salait dans les pays du Maghreb. Dans les pays, en Arabie Saoudite, les pays du Moyen-Orient, on salait beaucoup la viande justement pour qu'elle se conserve mieux. Et en France, on travaille là, justement la boucherie, c'est un beau métier. Enfin, être boucher, c'est un très beau métier, mais la boucherie, chaque pays a un concept de la boucherie. Mmh. Je sais qu'en France, on est extrêmement développé en termes de boucherie, mais depuis déjà des siècles.
Oui, la fumaison, ça vient plus d'Amérique du Sud. Hein, c'est les Indiens d'Amazonie qui ont lancé ça.
Enfin, oui.
D'ailleurs, c'est ce qui a donné naissance au barbecue après, sauf que le barbecue, maintenant, on cuit à feu vif, mais ça vient de la baracoa. Hein. La baracoa, c'était un grand tressage de bois qu'on mettait au-dessus d'un trou dans lequel on faisait fumer des feuilles et des copeaux. Et ça fumait la viande doucement et ça permettait de la conserver. Et puis c'est devenu par extension le barbecue. C'est pour ça que le barbecue américain, c'est à la fois une fumaison et une cuisson en même temps, mais à basse température et pendant 6, 7, 8, 10 heures.
Ouais, même 16 heures, ça dépend des, si le morceau est gros,
des morceaux très persillés, alors.
Hein, ouais, faut que ça soit persillé, par contre. Ouais. Et là, il y a aussi ce qu'ils faisaient en Europe aussi, surtout dans les pays du Moyen-Orient et au Maghreb, ils mettaient de l'eau salée. Ils noyaient la viande dedans, ils mettaient la viande dans le tonneau.
Dans la saumure.
Et elle pouvait se garder des années, en fait, sans aucun problème. Voilà. Et en France, ce qu'ils faisaient à l'époque surtout, c'est qu'en fait, ils coupaient la viande, mais ils laissaient la peau névrose. Du coup, en fait, le morceau, au lieu qu'il périme, la peau névrose, c'est le tissu de viande, en fait, qui va permettre la viande, quand on désosse une viande. La viande, elle va se garder, on va dire, une semaine, deux semaines, quelques jours. Et en fait, c'est ce tissu, si on le déchire, la viande, en fait, elle va pas se garder longtemps.
C'est une espèce de peau, un petit peu. C'est comme la crépine qui maintient les organes.
Un placenta. Hein.
Voilà, c'est une pellicule qui est entre
les muscles. Enfin, vous allez prendre vous allez prendre plusieurs différents morceaux, et ben entre les muscles, tous les morceaux ils ont des muscles. Si on les sépare, si on désosse correctement et sont épluchés, en fait, et ben le morceau il peut se garder pendant plusieurs semaines.
C'est et en France on développe ça entre la peau et le muscle, en quelque sorte. Si vous regardez un gigot d'agneau, par exemple, au niveau de la souris, on le voit bien, il y a une espèce de pellicule blanche quand c'est cru. C'est ça, la peau névrose.
La peau névrose, c'est ça.
Oui, la peau névrose.
Du coup, on pouvait garder la viande beaucoup, beaucoup plus longtemps grâce à ça, même s'il faisait très chaud.
En tout cas, c'est intéressant, hein, la fumure. Alors, je sais pas effectivement.
La fumaison.
Ouais, le fémur, ça fait peut-être
La fumure, non.
Ça fait un peu orthopédique.
On dit pas fumisterie non plus, c'est fumaison.
Fumaison, c'est bien. Oui, heureusement que vous êtes là pour tous les termes.
Maître Capello de la gastronomie.
Bien. Et finalement, sur une côte de bœuf, on pourrait le faire ou pas, ou ça présenterait peu d'intérêt?
En fumage?
Ouais.
Alors, sur une viande qui est pas trop, trop goûteuse, on peut faire ça. Il y a pas de souci. Mais sur une viande, on va prendre par exemple du bœuf de Galice ou de la Retinta, une viande qui va être très, très grasse. Bah, c'est dommage, quoi. C'est comme où on va faire du tuning sur une Ferrari, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Mmh. Voilà. Après, moi, j'ai décidé de faire ça sur la limousine. La limousine qu'on a, elle est très goûteuse, hein. Il y a du goût. Mais si on prenait une charolaise, bah, il y aurait pas de goût. Donc, il y a une, il y a un point à faire la fumaison, c'est intéressant puisque c'est fade en fait.
D'accord. Mais
parce qu'il y a des parce qu'il y a des viandes effectivement qui sont j'explique ça pour les auditeurs, c'est vrai qu'il y a des viandes qui ont plus de propriétés au niveau de la tendreté mais qui ont parfois moins de goût, d'autres qui ont beaucoup de goût mais qui sont un peu moins tendres, et c'est vrai que puisqu'on parle de limousine aujourd'hui, la limousine elle a un bon équilibre entre la tendreté et le goût.
Exactement,
goût.
Voilà.
Et c'est vrai que du coup elle peut s'utiliser pour on peut la prendre pour plein d'utilisations, notamment la fumaison, mais aussi pour selon les morceaux, aussi bien pour des grillades que pour des plats mijotés. Que voilà, c'est vrai que la limousine, c'est un petit peu comme la normande, la bonne normande. Je parle pas de
bonne
normande,
normande
de réforme,
oui,
une
ça.
Bonne normande de viande,
bien gras.
De race, enfin ceux qui font vraiment de la normande pour la viande. La normande ou la limousine, c'est des viandes qui sont très adaptées à toutes les utilisations.
Mais alors, après, ça dépend du morceau qu'on prend.
Oui, chaque morceau est différent. Par exemple, on va prendre la surprise. C'est un morceau qui est au niveau de l'avant. La surprise, c'est tendre, mais le goût, bon, sans plus, quoi. Vous allez prendre une araignée, ça va être un peu plus coûteux. Vous allez prendre un faux filet, ça sera plus coûteux. Ce qui est
plus
bien,
goûteux,
en termes de goût, il y a plus de goût. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de morceaux dans la viande qu'à chaque fois, on peut prendre une viande différente, quoi.
Mais alors, on parle de limousine, de normande, tout ça, mais c'est pas du tout assez exotique pour vous, Karim?
Quand même, non, ça va. Ça a été un peu space il y a 6 ans, parce que vu qu'on était on a été la première boucherie à faire de la viande bio halal en France, du coup, c'était un peu spécial, quoi.
Ouais.
Ouais. Mais alors, par exemple, justement, vu qu'on veut pas ressembler à tout le monde, justement. Aurélien, on a des échanges. Par exemple, là, on fait une finition au jus de pomme. C'est-à-dire que les vaches, elles vont boire du jus de pomme pendant plusieurs mois pour avoir un goût un peu plus spécifique. Là, on a lancé ça il y a pas longtemps. Et du coup, d'ici 3 mois ou 2-3 mois, on aura des retours dessus.
Et pourquoi pas du cidre?
Le problème, c'est que je veux pas lancer de polémique. C'est pour ça que j'ai pas.
Oh là là, déjà, non.
Voilà, déjà, dès qu'on parle, dès qu'on est un peu hors norme, les gens ils commencent à critiquer parce qu'ils savent pas en fait. Mais donc du coup non, du jus de pomme c'est très bien.
Est-ce que vous allez les masser avec le jus de pomme comme font les Japonais avec la bière pour le Wagyu?
Non, mais on a pensé à leur faire boire du Selecto ou du Bouga.
Ouais. Alors le Selecto, elles auront un petit goût de réglisse, ça va être parfait. Hein.
Du coup on va voir.
Qu'est-ce que t'en penses? Au niveau du diabète, ça, à mon avis,
c'est une très très mauvaise idée. Hein. Faire boire des produits chimiques à une
non, mais c'est bio. Du Selecto, c'est pas grave.
Le Selecto, c'est chimique, hein.
C'est des imitations
hein.
Coca.
Ouais.
Non, le Selecto, c'est pas du tout chimique.
Non, mais il faut toujours trouver. On a pensé aussi à faire avec du chocolat. En fait, on a beaucoup d'imagination. On peut faire ce qu'on veut, en fait. Et ce que j'aime bien chez Aurélien, c'est qu'il est partant. Il va pas dire ah non, je sais pas quoi, non, c'est pas bon. Mon grand-père, il a pas fait ça. Ma grand-mère, elle a pas fait ça.
J'étais partant pour le jus de pomme. J'étais aussi partant pour le chocolat, mais c'est un petit peu plus compliqué de trouver du cacao.
Je vois pas le concept. Ah oui, vous voulez dire en poudre alors?
Ouais, ou sous forme de cacao. Voilà, il y a différents. Mais bon, c'est compliqué de s'approvisionner en gros volume de cacao bio.
Comme vous n'êtes pas loin de Redon, vous pouvez essayer le Brescola, non, pour le.
On a le
Coca-Cola breton.
Mais pareil, bon, il y a un peu trop de gaz, je pense.
Oui, trop de gaz, trop de sucre, c'est une mauvaise idée.
C'est pour rigoler.
Vous vous ennuyez dans votre tête, Karim, parfois? Non, je sais pas, parce que là, le chocolat, ça vous est venu comment, cette idée? C'était un jour de dépression, vous vous ennuyiez, qu'est-ce qui s'est passé?
Peut-être, il n'y avait pas assez de clients dans la boutique, et du coup...
Voilà, et moi, je reçois un appel, et je dis, qu'est-ce qu'il va me demander encore?
J'essaye de comprendre comment ça naît, ce genre d'idée. On va filer du chocolat à des vaches.
Non, mais en fait, les jumeaux sont pas deux, ils sont 15, parce que dans la tête de Karim, il y a beaucoup de monde, c'est pour ça.
Heureusement qu'on frère est là, sinon je crois que je serais pas là. Oh là là. En fait, mon frère et moi, on est jumeaux, des vrais jumeaux, mais on a des comportements qui sont complètement différents. Mon frère, il est plutôt dans la stabilité. Du coup, c'est lui qui gère la boutique est toujours propre, les salariés sont bien gérés, il y a une super ambiance, il y a pas de souci. Et moi, je suis le rêveur. Je pense, juste réfléchi, voilà quoi, c'est vraiment le vrai pro.
Vous êtes le créatif.
C'est mon frère. Pour moi, c'est vraiment mon frère. Sans mon frère, je crois que je pourrais rien faire, quoi.
Et vous donnez du chocolat aux vaches.
Et mon frère aussi, il me dit stop. Bon, là, t'abuses un peu. Ah, calme-toi. Arrête. Heureusement d'ailleurs, parce que des fois, je vais partir dans des trucs, mais heureusement qu'il est là.
Mais c'est vrai que ça change aussi la façon dont les éleveurs travaillent sur le terrain, parce que vous êtes très peu confrontés à ce genre de demande finalement.
Bah oui, c'est sûr. Bon, après, c'est justement, c'est intéressant. Et puis, Bon, là, je vois le résultat. On a une super boutique, on a des bons produits. Je pense qu'il y a une clientèle qui est super contente de pouvoir profiter de ça. Donc, voilà, moi, tout va dans le bon sens, quoi.
Alors, bio et halal, c'est fini. On en a parlé plusieurs fois.
Oui.
Donc, finalement, comment est-ce que vous contournez cet aléa, Karine?
Du coup, on a le droit de mentionner issu d'un élevage naturel ou respecte l'agriculture biologique. Alors, on n'a perdu aucun client. On a quelques clients qui nous demandent des renseignements parce qu'ils veulent savoir. On leur dit voilà, il y a une loi qui est en gros, il y a une loi qui est passée. On peut plus faire, on peut faire des viandes bio, c'est pas un souci là-dessus parce que Aurélien il est certifié bio. Mais par contre, le fait de le faire en halal, on perd la mention bio parce qu'il y a un cahier des charges qu'on doit respecter. Et si le cahier des charges ne suit pas, du coup on peut plus l'appeler bio.
Mais en fait, c'est le côté halal qu'on peut plus faire, c'est ça.
C'est le côté halal qu'on peut plus faire, voilà. Et vu que nous on est une boucherie halal, du coup on peut pas faire du bœuf bio, c'est fini. C'est,
d'ailleurs, c'est une directive européenne que la France a appliquée, mais elle n'était pas obligée de le faire.
Et d'ailleurs, on n'a pas le droit de l'écrire, quoi, en fait. On peut pas. C'est interdit. Alors, nous, on triche pas. On marque issu d'un élevage naturel. On a de la chance d'avoir des clients qui nous font confiance. Après, en général, les gens qui nous demandent ça, vous savez, c'est les clients qui achètent rien, quoi. Ils veulent juste venir, ils nous embêtent, voilà, juste savoir. Après, ils disent, OK, merci. Allez, au revoir. Mais ils vont à la boucherie d'à côté. Où est-ce que je veux dire?
Oui.
C'est juste pour embêter, mais voilà.
Alors Aurélien, on sait que la vie à la campagne, à la ferme, tout ça, ça a de plus en plus la cote. Est-ce que vous accueillez les gens qui veulent passer un week-end, qui voudraient passer un week-end à la ferme ou pas encore, ou les groupes?
Pas encore, non.
Non,
non. Mais bon, après, on accueille les jumeaux et.
D'accord, mais si les auditeurs disent, viens, on va passer le week-end chez Aurélien pour aller voir comment ça se passe à la ferme. Pas encore, il n'y a pas encore ce tourisme-là.
Non, pas chez nous. Mais après, bien sûr, les portes sont ouvertes en tant que visiteurs, passagers, il n'y a aucun problème.
Il y a beaucoup de fermes de permaculture aujourd'hui qui ouvrent leurs portes pour le week-end, pour sensibiliser les enfants, les parents.
Après, c'est une autre démarche. Nous, on est déjà, on a un petit effectif, on est 4 personnes. Accueillir du monde, c'est aussi du temps. Et donc, on consacre notre temps aujourd'hui quand même à la production, quoi.
Alors je rebondis sur votre question, Philippe, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, la race Limousine a un parc pédagogique agrotouriste qui s'appelle le Limousine Park et qui est installé sur le site du pôle de l'Anneau, donc dans le Limousin.
Du
Lanneau, L-A-N-A-U-D.
Du poil de l'Anneau.
Du pôle.
Ah, du pôle de l'Anneau.
Pas du poil de l'Anneau.
C'est un centre de sélection.
Voilà. Et donc donc sur le site de ce pôle de sélection, il y a eu un Limousine Park, un parc d'attractions autour de la vache Limousine. Donc si vous passez dans le coin pendant les vacances, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous saurez plein de choses en plus de ce qu'on vous a déjà dit sur la Limousine.
C'est magnifique, oui.
Alors, on rappelle les adresses, Boucherie, Les Jumeaux, Lila.
Au 99 rue de Paris. On est très actif maintenant sur Instagram et sur Facebook. Du coup, vous marquez juste Boucherie Les Jumeaux 93 ou Boucherie Les Jumeaux. Et on est au Lila, donc ouvert du mardi au dimanche, on ferme à 13h30 le dimanche.
Voilà, un éleveur qui vient nous voir à Beurre FM. Merci Aurélien d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci
de nous avoir écoutés. Manu, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.